9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 7 du Club de l'été version 2019. Je vais m'arrêter là pour les chiffres, parce qu'au Club de l'été, l'équipe elle préfère les mots, ceux qui parlent de culture, de coup de cœur, de patrimoine, voire de gastronomie. Des mots qui résonnent et qui vont évoquer ce matin un voyage, un film, un combat aussi, ou encore une ville. Alors tout ça pourrait paraître étrange, mais deux experts sont là pour redonner un peu de sens à mes phrases parfois peu compréhensibles. Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Bonjour les
Bonjour
amis.
Bonjour à tous.
Bonjour, nous sommes parfaitement tartiné d'ambre solaire.
Alors, vous avez pris le rythme du club de l'été.
Complètement.
Vous êtes bien.
Oui.
Bon,
on est très, très
Lise,
bien.
Notre invité du jour est né à Bruxelles et ce n'est pas
Comme
Olivier
moi, tiens.
Pouls. Et ce n'est pas Olivier Pouls, notre invité. Comment on va découvrir cette ville ce matin?
De façon insolite et puis à travers la bande dessinée aussi.
Ah, ça, c'est une très très bonne idée. Olivier, vous connaissez Bruxelles et la Belgique par
oui,
cœur.
Mais là,
hein.
le coup de la bande dessinée, j'adore, donc je reste.
Ah,
jusqu'à la fin de l'émission, c'est
sûr. Vous n'avez pas le choix en même temps.
De toute façon, vous n'avez pas le choix.
Moi, je vais vous faire goûter Bruxelles, les saveurs bruxelloises.
Et
notamment une grande spécialité.
D'accord.
Vous allez voir.
Bon, et on va terminer l'émission avec une nouvelle recette. Et cette semaine, c'est une spéciale salade, Olivier.
Et bien, on ira aussi en Belgique.
Et on ira aussi en Belgique.
Ouais,
ah,
je
bon, d'accord. Il y a même des choses dont je ne suis pas au courant dans cette émission. C'est formidable. Nous avons deux heures pour revenir.
On fait des salades en Belgique aussi.
Mais oui, c'est vrai.
Ah ouais.
Bon. On a deux
pas
heures pour revenir sur ces sujets et bien d'autres. Deux heures en direct au cours desquelles vous êtes les bienvenus. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est une artiste passée par la mode, la chanson, la littérature, le cinéma, et j'en oublie. Elle possède un regard malicieux et un sourire ravageur. Cher invité, voici quelques sons qui racontent des bouts de votre parcours, mais des tout petits bouts, hein. Mais lesquels?
Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne, et j'ai donné ma parole d'homme qui vaut ce qu'elle vaut.
Utilise un pseudo.
Aouh! Ma sœur.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé.
Ouais, si j'étais riche,
je vis 7 ans avec un mec, on a tous les emmerdes de la terre, je me quitte et gagne le tour.
Ouais, ouais, moi.
Allez, viens avec moi, ne pars plus sans moi.
Seul endroit où je n'arrive pas à dessiner, c'est dans mes rêves.
Bonjour Elena Noguera.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous ouvrir les portes de ce club de l'été sur Europe 1. Elena Noguera, vous êtes chanteuse, vous êtes comédienne, vous êtes auteure. Votre dernier album sorti cette année s'appelle Nu. Vous serez sur les écrans de TF1 ce soir à partir de 23h25 pour une nouvelle émission qui est présentée par Christophe de Chavannes et qui s'appelle Star Tout Terrain. On va évidemment parler de tout ça et plus encore. J'aurais pu choisir des dizaines d'autres sons. Parce que depuis que vous avez 15 ans, vous n'avez pas arrêté de multiplier les projets.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous venez d'entendre dans les sons qu'on vient de diffuser?
Alors, il y en avait beaucoup. Alors, il y avait Les yeux noirs d'Indochine, qui était un clip dans lequel j'ai tourné, qui était réalisé par Serge Gainsbourg.
Vous aviez quel âge?
Je devais avoir 15 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu tellement. Il y a eu Le tourbillon de la vie, parce que j'ai rencontré Serge Rezvani, qui est l'auteur-compositeur de ses chansons. Et j'ai donc repris beaucoup de ses chansons en 2008, je crois. Et depuis, c'est mon papa spirituel, Serge. Ça a été une rencontre formidable. J'ai entendu le Burger Quiz.
Oui.
Donc, il y a deux, c'est un double son. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait de Burger Quiz il y a 20 ans. Et là, j'y suis retournée. J'adore Alain Chabat et toute cette équipe. Et effectivement, dans le son que vous avez choisi, je dis « Ma sœur !» Parce que je suis donc la sœur de Lio, pour ceux qui ne le savent pas. Et ça m'embête beaucoup, cette définition. Mais voilà,
vous avez remarqué qu'on a fait que ça. Voilà, on n'en parlera plus.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme son? Bon, la Belgique, je suis belge.
Ouais. On a entendu un extrait du film « Ah si j'étais riche ».
Ouais, « Ah si j'étais riche ».
Ça a été votre premier long métrage?
C'était pas le premier, mais en tout cas, c'est le premier visible. C'est-à-dire que de ma personnalité, il y a une partie de l'iceberg très visible et puis une partie qu'on dit « underground ». Je suis le cul entre deux chaises, mais je suis très à l'aise.
Et alors, on a entendu aussi la voix de Jean-Charles Castelbajac, qui a illustré, qui a illustré un album que vous avez écrit, un album jeunesse.
Oui.
C'était l'incroyable voyage de Piotr au pays des couleurs, c'est ça.
Oui. Voilà, c'est un album qu'on a fait chez Actes Sud, un livre pour enfants que j'ai. C'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est Bruno Obadia. Moi, je raconte l'histoire et j'ai fait
et
des chansons
aussi,
de l'histoire. Ouais. Voilà. Et c'est donc dessiné par Jean-Charles, très joliment. Et bah oui. encore une autre casquette.
Et on a également entendu Sheila. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Alors Sheila, je ne sais pas, je crois que je l'aime beaucoup. Donc peut-être
oui,
que non, ça suffit.
Voilà, c'était ça. En fait, dans une interview, vous racontiez votre amour pour Sheila.
Oui, c'est ça.
Mais depuis que vous êtes enfant, je crois, enfin, oui. Elle vous a suivi, quoi.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'en suis dingue, je la chante régulièrement.
Vous dansez sur Sheila ?
Je danse sur Sheila, je mets ses disques. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette époque et Sheila en particulier.
Elena Noguera, vous avez eu 1000 vies. J'ai l'impression qu'il vous en attend encore 1000 autres.
Ah, j'espère.
Vous êtes du genre hyperactive ?
Oui.
C'est ça ?
Oui, je crois que c'est un problème. C'est-à-dire que maintenant, ce serait diagnostiqué ainsi.
Ah bon ?
Avant, plutôt, plus jeune, on ne savait pas trop. Mais après, il y a des gens qui trouvent que c'est une instabilité ou ça peut être jugé mal.
Mais vous ne le jugez pas comme ça ?
Non, moi, j'ai l'impression
d'être... C'est quoi, c'est une curiosité, en fait, que vous avez ?
Oui, c'est sans doute une boulimie qui naît d'un endroit anxiogène. Il doit y avoir beaucoup d'angoisse du vide et du néant et de la mort qui arrive et qui m'enlèvera toute possibilité. Donc, je crée des possibilités, je crée des curiosités. Et c'est vrai qu'il y a une envie de faire et d'essayer.
Vous aimez l'idée d'être inclassable ?
Ben, j'y ai pas pensé, vous voyez-vous, je ne savais pas que ça allait donner ça. Il y a une espèce d'innocence au départ. On ne sait pas ce que les autres vont en dire, donc les autres ont dit ça. Mais finalement, l'avantage de l'âge, c'est qu'on accepte, comme disait René Char, à te regarder, ils s'habitueront. Et j'ai l'impression qu'on s'est habitué à me regarder.
Vous êtes née à Bruxelles, Elena Noguera, vos parents ont immigré du Portugal, c'est une très bonne chose. À 15 ans, vous viviez déjà à New York, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé,
oui.
Et on en reparlera d'ailleurs avec l'émission Star Tout Terrain, donc, qui est diffusée ce soir sur TF1, où vous allez voyager au Mexique,
oui.
Dans la région du Chiapas. Est-ce que vous vous sentez quand même attachée à une terre, ou pas du tout ? Et finalement, la liberté, c'est votre principal îlot de rattachement ?
Mais je suis attachée à la terre, en fait. Je suis vraiment citoyen du monde... Depuis toujours, je crois que je l'ai compris sans doute grâce au fait que mes parents sont des immigrés, c'est-à-dire ils arrivent du Portugal et je nais en Belgique. En naissant en Belgique avec la tête que j'ai, de toute façon, je ne suis pas assimilée belge tout de suite. Donc les Belges me renvoient à quelque chose qui vient d'un ailleurs. Et quand j'arrive au Portugal, je parle en portugais mais avec un accent. Donc je suis aussi renvoyée ailleurs. Donc je vois bien que je suis avec eux mais pas avec eux et que je suis de partout. Et que je suis tout autant à eux, je suis autant portugaise que belge. Et donc, je comprends très vite, gamine, que je suis citoyen du monde. Et puis, à 15 ans, je commence à voyager comme mannequin. Donc, je découvre la terre. Et c'est vrai que je me sens partout chez moi.
Mais vous n'avez pas l'accent belge.
J'en ai pas, mais je peux le prendre. Il est caché parce qu'on s'adapte. Hein, tu sais,
c'est
bien qu'on s'adapte et qu'on veut être intégré, pas regarder, et puis qu'on te dise pas bah, qu'est-ce qu'elle a, celle-là. Elle n'est pas de chez nous, donc tu te
mais
dis.
Vous savez, mais ça se maîtrise autant que ça parce que Eva ne le maîtrise pas du tout.
Non, moi je ne maîtrise pas du tout.
Parce que vous êtes d'où ?
Non, de Nice. J'ai un problème avec mes
mots, vous allez l'entendre.
Non, mais vous allez
l'entendre. Parce qu'elle
n'a pas
dit rose. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai une grande interrogation sur les Belges. Pourquoi on aime les Belges ? Pourquoi j'adore autant les Belges ?
Parce qu'ils sont dada, parce qu'ils sont simples, parce qu'ils sont rigolos, parce qu'ils n'ont pas de respect pour la hiérarchie. Ils sont humains avant tout. Et après, vous êtes patron, et c'est bien. Mais...
J'ai pas des réponses. Ah, j'aime bien l'histoire de pas de patron et puis ils sont libres et tout ça. J'aime bien ça.
Je crois qu'il y a un truc comme ça. La hiérarchie n'est pas si impressionnante que ça par rapport à ici. Ici, on est vite plus subordonné.
Il y a quelque chose de ça, c'est vrai.
J'ai demandé ma nationalité belge.
Ouais.
Avec les O prononcés dans le sud.
Mais nous aussi, on dit grosse. Elle est grosse. Elle est grosse.
On a Elena Noguera jusqu'à 11h pour comprendre votre parcours, évoquer l'émission à laquelle donc vous participez, Star Tout Terrain, à voir ce soir sur TF1. Mais impossible de ne pas entendre votre voix pour poursuivre ce club de l'été. Extrait de votre dernier album, la chanson s'appelle Je mens. C'est en duo avec un garçon qu'on adore. Elena Noguera et Vincent Dodienne sont sur Europe 1.
Tu me demandes qui je suis.
Je te demande si tu me suis.
Je ne sais pas, je danse avec le temps qui va son lent balancement.
Tu aimes le temps quand il se suspend, le souffle inattendu, le vent.
J'aime surtout qu'on se mente vraiment quand on se parle de sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant.
Pa 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 pa
Tu es une image mouvante.
Mais je peux être émouvante.
Je sais, tu danses comme le vent. Et devant l'amour tu te rends.
À l'évidence et au tourment, moi le petit soldat je me rends. Pourvu que toi, mon bel amant, tu me prennes par les sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant. Je t'aime,
tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Dis-moi,
oui quoi,
m'aimes-tu vraiment?
Tu parles charmé, c'est évident. Je t'aime,
tu m'aimes.
Mais oui, vraiment, je...
Tu...
Je t'aime inexorablement.
Quand tu dis des mots, j'y crois. Pourtant, pour toi ce sont des roses, des vents que tu offres en guise de serment. Tu parles comme une valse à trois temps.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Souvent,
je danse.
Tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense.
Tu danses trop, c'est agaçant.
Je mens.
Tu mens.
Tu es mon aimant. Je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse.
Tu penses que c'est pour longtemps.
Oh, mais je pense.
Mais tu penses trop, c'est agaçant.
Extrait de l'album d'Elena Noguera. La chanson s'appelle Je mens. L'album s'appelle Nu. Et Elena est notre invitée jusqu'à 11h. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
Il est 23h, mon Dieu. Ouais.
Ma pauvre fille, vous êtes vraiment à côté de vos sandales.
Ça commence très très bien cette journée.
Eva Rock.
Elena Noguera, vous avez vu comme je suis traitée?
Je crois que vous vous trompez sur les heures.
Et je me suis trompée sur l'heure hier, une fois,
ah,
parce que c'était 9h23 et j'ai dit il est 23h,
ah oui,
parce que j'étais concentrée sur le 23. Et bien voilà, notre réalisateur, Romain, voilà, me le ressort le lendemain. Je n'ai aucune autorité, vous voyez, on parlait de hiérarchie, j'en ai aucune sur cette équipe. Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invitée du jour est la pétillante Elena Noguera. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux, via Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages, vos questions également. Lise, il y a d'ailleurs une question pour Elena.
Oui, enfin une remarque et plus d'un fan Sébastien qui nous dit merci d'inviter la délicieuse et talentueuse Elena Noguera, où je suis à chaque fois que je l'écoute envoûtée par sa voix depuis Olano et le titre Latitude.
Ah oui, ah bah c'est très gentil. 1996. Et tous les parfums et toutes les couleurs ne suffiront pas à combler mon cœur.
Alors, je pense que vous avez fait plusieurs heureux. Voilà.
Continuez à nous envoyer des messages comme ça on a la voix d'Elena qui va nous accompagner pendant les 2 heures. Elena Noguera, dans quelques minutes, on va évoquer évidemment le rendez-vous télé de ce soir, Star Tout Terrain. Mais avant, on va revenir à la grande affaire qui nous occupe tous, l'amour.
Ah oui.
Est-ce que c'est un moteur de vie et de création pour vous? Parce que vous en parlez souvent.
Oui. J'en parle souvent et c'est, oui, ça devient de plus en plus prégnant, mais vous voyez, je sais pas comment vous le dire, je vais essayer d'être brève, mais je deviens même mystique, c'est-à-dire que je mets l'amour dans tout. Je mets l'amour dans comment est-ce qu'on fait un café et comment est-ce qu'on le donne à quelqu'un. Voilà, je mets l'amour à toutes les sauces, c'est-à-dire, pour moi, c'est une autre dénomination du respect. Et donc je deviens un petit peu je vais finir moine, hein.
Je crois qu'il y a un truc qui se passe qui est bizarre.
Et est-ce que vous mettez tout cet amour aussi dans la musique que vous proposez, notamment dans le dernier album Nu?
Oui, après quand je fais des chansons, je parle d'un amour qui est entre un homme et une femme et qui va être plus charnel et qui va être plus sentimental dans le sens plus classique. Donc oui, j'aime bien visiter cet état-là aussi. J'ai beaucoup d'amour, je ne suis qu'amour.
Vous êtes qu'amour.
Ce studio est inondé.
Il est inondé d'amour, sauf vous, Olivier Pousse.
Non, mais je reçois.
Vous recevez, vous le sentez, non?
Bien sûr.
Je suis qu'amour.
Votre dernier album, Elena Noguera, donc Nu, a des sonorités, notamment jazz, bossa nova, comme on vient de l'entendre dans ce titre-là. C'est votre côté latin qui ressort dans ces musiques ou c'est la musique qui vous procure en fait le plus d'émotions?
Ah là là, oui, sans doute le côté latin sort et puis c'est lié aussi à mon enfance. Ma maman écoutait beaucoup de bossa nova, bon aussi de fado, donc j'ai préféré, avec cette langue commune entre la bossa nova et le fado, moi je préfère la bossa nova parce que c'est plus léger et c'est une manière d'affirmer ses sentiments d'une manière plus légère que le fado,
oui, qui est beaucoup plus direct et
tout à fait dans le pathos directement, et dans mon caractère, il y a quelque chose qui se veut de plus léger. Et il y a une politesse du désespoir que je retrouve plus facilement dans la bossa. C'est pour ça que j'aime bien travailler la bossa. Mais j'aime toutes sortes de musique. Et j'ai un peu la même boulimie musicale que dans la vie. C'est-à-dire j'ai fait 7 albums et les 7 ont une gueule différente.
Oui, oui, oui.
Parce que, en fait, je ne suis pas spécialiste. Je ne veux pas me spécialiser. Je veux essayer de tout goûter. Donc, le défaut de ça, c'est qu'effectivement, rien n'est approfondi à fond, quoi.
Si vous deviez, on aime bien dans le club de l'été jouer un peu avec nos sens.
Oui.
Si vous deviez décrire votre vie en utilisant vos 5 sens, par exemple, une odeur, ce serait quoi ?
Une odeur, c'est les fleurs blanches. J'adore les fleurs blanches, le jasmin, le gardenia, même le muguet. Enfin, les fleurs blanches, j'adore.
Un goût ?
Le goût, ça va être... J'hésitais entre le saucisson et le chocolat. Mais je prends le chocolat puisque je suis en mode... en voie de véganisme. Donc, je vais prendre chocolat.
Ah, mon chocolat.
Vous mangez plus de saucisson.
En voie. Elena a dit en voie.
En voie de... Je mange un petit peu avec beaucoup de culpabilité, mais je pense que l'avenir est vegan.
Une image qui vous vient
quand... Une image, quand vous me dites ça, je vois mon fils, petit.
Un son ?
Un son...
qui décrit votre vie. Hein.
Un son qui décrit ma vie, ça va être la musique, une guitare.
Une guitare.
Ouais, ouais. Beaucoup d'hommes à guitare.
Et si on devait raconter votre vie avec le toucher, ce serait quoi ? Quelle matière ?
La peau. La peau, j'aime bien les peaux. Enfin, les peaux de chambre, non. La peau.
Les peaux de banane.
Non, mais quelle peau elle aime ? Non, les peaux, là.
Il y a deux adjectifs qui me sont venus à l'esprit quand je pense à vous, libre et féministe. Est-ce que je me trompe ?
Oui.
Je me trompe.
Non. Ah, non. Ouais. Non, oui, vous avez raison. Non, vous ne vous trompez pas.
Oui.
Enfin, libre, j'essaye, mais oui. C'est impossible. La liberté n'existe pas.
Ouais.
Ah oui, non, on est tout à fait subordonné à tout ça. Mais en tout cas, le plus possible. Mais féministe, oui.
On va en reparler justement. Oui. Et c'est pour ça que je vous proposer cet adjectif-là, parce que ça va être un de nos coups de cœur qu'on avait envie de partager avec vous. Oui. Vous allez nous faire partager aussi un coup de cœur pour un film. Ça sera question... On va partir en Angleterre, si je ne me trompe pas. Non, aux États-Unis. Vous vous souvenez plus ?
Mais je ne sais pas.
Manhattan. Si je vous dis Manhattan ? Oui, ça va vous revenir. Les faussaires de Manhattan.
Ah oui, 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 oui. Okay. Tout à fait.
Eva, c'est tout de votre vie.
Oui, ça m'épate. Si je me souviens, j'ai dû répondre un petit
oui,
mail.
Oui, exactement. Oui, oui. À tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1,
9h-11h,
Eva Rock.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invitée VIP, Elena Noguera. Elena, à la question, quel est votre coup de cœur de ces derniers jours ? Vous nous avez répondu, le film Les Fausseurs de Manhattan, extrait de la bande-annonce.
J'ai trouvé cette jolie lettre signée qui semble authentique.
Fanny Bryce, une de mes préférées. C'est sûr que je pourrais tirer beaucoup de celle-ci.
Un peu par hasard, je me suis mise dans une position de nature délictueuse.
Dans quel type d'activité illégale tu as bien pu tomber, à part l'attentat au bon goût vestimentaire ?
Je modifie des lettres écrites par de prestigieux écrivains.
Il s'agit d'un film de Marielle Heller qui sortira à la fin du mois. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch en quelques secondes ? Parce que nous, on n'a pas eu la chance de le voir. Vous l'avez vu en festival, c'est ça ?
Oui,
dans un festival ?
C'était festival du film indépendant à Paris. Et donc j'ai découvert ce film, c'est magnifique, c'est un biopic puisqu'elle a vraiment existé, Lee Israel qui était une écrivain, et c'est une femme qui écrivait des biographies, qui a eu du succès en tant que biographe, elle en a écrit 3, mais après elle a un peu galéré, je pense qu'elle était un peu particulière, un caractère particulier, très lié à l'alcool, elle avait une histoire d'amour avec l'alcool, et donc petit à petit elle s'est mise à faire de fausses lettres. Et son talent, comme elle était très proche des gens qu'elle racontait dans les biographies, eh bien, ses lettres étaient très crédibles et elle est devenue faussaire.
Faussaire.
Voilà, j'en dis pas plus.
Faussaire littéraire et pas non faussaire de tableau, oui, comme certains sont capables d'ailleurs de peindre à la façon d'eux.
Elle écrivait à la façon d'eux, des fausses lettres qu'elle revendait, donc elle vivait comme ça. Et puis, bon, après, elle a écrit l'histoire de son histoire, et qui a marché aussi, et dont ils ont tiré un film.
Voilà.
Mais le personnage est hyper attachant, et c'est les films qu'on aime parce que, d'un seul coup, ils vous font aimer le méchant.
Oui.
Donc, c'est un petit peu, on se sent coupable, mais on est content d'aimer un méchant, pour une fois.
Ça s'appelle Les Faussaires de Manhattan, et ça sort à la fin du mois de juillet. Mmh. Avec l'équipe du Club de l'été, on souhaitait aussi vous faire part d'un coup de cœur pour une jeune femme et son travail, à la fois sur YouTube et sur papier. Elle est comme vous, Elena Noguera, elle multiplie les supports de création. Bonjour Léa Bordier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes la créatrice d'une chaîne YouTube, sur laquelle est disponible notamment votre série documentaire qui est intitulée Cher Corps. Alors c'est une série d'entretiens avec des femmes de tous âges qui parlent de leur corps et de leur intimité. Qui sont ces femmes, en fait ?
Alors, c'est des femmes qui témoignent et qui m'écrivent directement parce qu'elles souhaitent partager leur histoire. Donc, à chaque fois, on a des histoires complètement différentes. J'ai publié une soixantaine de vidéos maintenant. Et on va parler de maternité, de grossesse, de maladie, de complexe, de tout plein de sujets de la vie d'un corps d'une femme.
Finalement. Et comment vous êtes arrivée à les convaincre de témoigner ? Parce que parfois, elles vont vraiment dans des, ouais, dans des détails de leur intimité.
C'est vrai. Ouais. Et finalement, c'est des discussions qui vont durer une heure. Donc, on a le temps d'apprendre à se connaître, de parler vraiment de plein de choses un petit peu au début, de se prendre un petit café, etc. Mais c'est leur choix finalement de m'écrire. Donc, dès le début, elles ont confiance en moi et... Et finalement, je les mets en confiance assez rapidement.
Je vous propose d'écouter un tout petit extrait. Il s'agit de Mathilde et elle a 33 ans.
Mon rapport au corps, aujourd'hui, il est extrêmement serein. Parce qu'en fait, mon corps, c'est mon instrument. C'est comme si on m'avait offert un Stradivarius à la naissance. Et donc, j'ai pas spécialement envie de lui faire mal. J'ai envie d'en prendre soin. Je veux pas qu'il ait un accro. Parce que justement, à l'inverse d'un instrument, il n'y a pas de luthier pour aller réparer un corps, en fait.
Mathilde, elle est musicienne et chanteuse. Hein. Elle dit « Je ne suis pas ronde, je suis grosse » et ce n'est pas un gros mot. Et Léa Bordier, on peut retrouver le témoignage de Mathilde dans une BD qui est publiée chez Delcourt. Parce que voilà, ils ont adapté en bande dessinée à travers des dessinatrices quelques-uns de ces témoignages. Comment est né ce projet, en fait ?
Alors, c'est mon
je vous l'offre,
Hélène.
Ah oui, merci, c'est très gentil.
C'est mon éditrice Marjorie qui m'a contactée il y a plus d'un an et demi pour me parler de ce projet parce qu'en fait, elle regardait tout simplement mes vidéos et elle s'est dit qu'on pouvait construire quelque chose ensemble sous cette forme-là de roman graphique, de bande dessinée. Et du coup, on a 12 illustratrices qui vont mettre en mots et en dessin 12 témoignages différents, 10 qui sont déjà sur ma chaîne YouTube et 2 qui sont inédits, qui ne sont pas disponibles en vidéo.
Est-ce que vous avez l'impression que cette libération de la parole a des bienfaits pour les femmes qui témoignent et pour les femmes d'une façon plus générale ? Ça fait du bien à tout le monde de témoigner comme ça ?
J'ai l'impression, oui, que ça libère la parole. Ça permet aussi d'ouvrir le débat, de pouvoir discuter et de ne pas se sentir seule sur certains sujets. C'est vrai que dans les commentaires des vidéos et dans les retours que j'ai maintenant, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire grâce à tel témoignage, j'ai compris que j'avais telle histoire, telle maladie parfois, parce qu'on n'arrive pas. Il y a une errance médicale, notamment du point de vue, là dans le livre, c'est Shona qui parle de vestibulodynie, qui est déjà très compliqué à dire comme terme. Et en fait, elle a vécu une errance médicale pendant plusieurs années. Et grâce à son témoignage, il y a beaucoup de femmes qui ont pu se reconnaître dans ses souffrances et qui ont pu poser un mot sur leur maladie.
Léa Bordier, vous dites que vous êtes féministe quand on vous pose la question ?
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Ouais. Elena Noguera aussi ?
Oui, oui.
Ouais. C'est important, c'est un combat au quotidien qu'il faut mener aujourd'hui, vous avez l'impression ?
Ah oui, oui, c'est tout le temps. Quand on est femme, on sait très bien que c'est du matin au soir jusqu'à ce qu'on se couche. Et encore, ça dépend avec qui on se couche.
Oui, on est d'accord. Enfin,
ça peut aussi être au lit qu'il y ait un problème encore. Mais on n'est pas encore libre. C'est long, c'est très long.
Mais vous avez l'impression que ça s'améliore ou pas ? Parce qu'on a.
Oui.
Vous pensez que ça s'améliore ?
Oui, oui. Après, il y a des retours en arrière.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous posais la question.
Mais globalement, sans doute que ça s'améliore si on part de Cro-Magnon, si on compare au Moyen-Âge. Mais en effet, on est encore sans doute. Le Cro-Magnon d'un être humain éveillé qui rigolera en disant « Tu te rends compte, en 2020, ils battaient les femmes mouraient sous les coups de leur mari tous les deux jours, il y en avait une qui tombait. » Oui, ils vont rire de nous et ils trouveront qu'on est vraiment des sauvages et des barbares, sans doute.
Vous êtes... Lise, pardon.
Oui, non, et au-delà de ça, on aura progressé le jour où on se dira que c'est un problème d'hommes et de femmes et pas seulement de femmes d'être féministes. Il faut que les hommes soient féministes. Après tout, c'est juste une question d'égalité.
Oui. Il y en a plein aussi.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est plus une question d'égalité homme-femme. C'est pas seulement pour les femmes de se dire qu'il faut qu'on soit égal, quoi.
Mais regardez comme les femmes ont pris le pouvoir. Je suis seule.
J'adorais la marque de mes vieux.
Le féminisme, vu comme ça, je l'adore aussi. Je suis très féministe.
Et Léa, est-ce que c'est facile d'être une femme et youtubeuse? Ou est-ce que c'est un milieu internet qui est assez machiste?
Internet assez compliqué, mais comme moi, en tout cas, mon point de vue, je me mets pas face caméra, c'est pas dérangeant du tout. Après, je fais parler des femmes, donc ça dérange certains parce que je fais pas parler des hommes. Tout de suite, c'était quelque chose qui revenait. Mais pourquoi pas les hommes? Et où sont les hommes? Et c'était une violence contre les hommes, alors que pas du tout. J'ai fait ce choix de mettre en avant des femmes. Si j'avais fait ce choix de mettre en avant des hommes, on serait peut-être pas venu me voir spécialement pour me dire où sont les femmes.
Mais est-ce qu'il serait capable de dire la même chose?
Je pense qu'il serait capable de se confier. Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent au sujet de la masculinité. Il y a des podcasts qui se créent. Après, face caméra, c'est vrai que
c'est audio, parce que c'est très difficile. Moi, ce que je trouve le plus dur, c'est de se confier face caméra et qu'elles aient accepté, justement, parce que l'audio, ça permet une liberté de ton. On entend plus facilement des hommes se confier que face caméra.
Mais bientôt, à la rentrée, je vais faire une série, justement, avec des hommes face caméra qui vont se confier, pas spécialement du rapport au corps, mais je vais essayer de les faire parler.
Elena Noguera.
Mais cela dit, le jour où les femmes seront vraiment libres, on n'aura plus besoin de parler ainsi de notre corps, puisqu'en fait, nous sommes toujours ramenés à notre corps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce sujet fait pour les hommes, parce que les hommes, ils n'ont pas tellement besoin de dire « Oh, ben, je suis gros et je suis normal », puisque eux, ils sont... Alors, ils ont d'autres problèmes. Eux, ils ont besoin d'être puissants dans la hiérarchie, justement. Ils ont besoin de gagner de l'argent. S'ils sont gros, ben, ils vont essayer de trouver d'autres manières d'exister au monde. Mais nous, nous sommes toujours ramenés à notre corps. On nous veut comme ci, comme ci, comme ça. On nous donne des injonctions. Il faut qu'on y ressemble. Donc, on essaye de s'en libérer en disant « Oh là là, je suis autre chose que cette chose-là ». Donc, effectivement, c'est une manière de libérer la femme. Mais à un moment donné, on n'aura plus besoin d'exposer ainsi notre intime que pour être considéré gentiment, mignonnement et également.
On est bien d'accord. Merci beaucoup, Léa de Bordier, d'être passée par ce studio. On retrouve votre collection Cher Corps, c'est sur YouTube. Votre BD réalisé avec un collectif de dessinatrices, c'est chez Delcourt. Je recommande également un excellent documentaire qui s'appelle « Elles prennent la parole », que vous avez réalisé et qui est sur Internet également. Et qui raconte aussi le rapport des femmes sur Internet. Dans un instant, on va continuer de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran et notamment pour l'émission Star Tour Terrain à laquelle participe Elena Noguera. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Pressac et Olivier Poul, c'est ça le club de l'été. Et comme tous les matins, nous avons une invitée de marque, en l'occurrence Elena Noguera. Tout va bien Elena?
Oui, très bien.
Les téléspectateurs branchés sur TF1 ce soir à partir de 23h25 vont avoir la chance de vous découvrir dans cette nouvelle émission qui est présentée par Christophe Dechavanne, Star Tout Terrain. Pendant une semaine avec Jean-Marc Généreux, vous découvrez la région du Chiapas, au Mexique. Oui, Chiapas et Mexique, c'est difficile à dire. Vous étiez en manque de voyage pour accepter une telle aventure?
Ah non. Pas en manque, mais j'adore ça. Oui. C'est, si vous me proposez de partir mais n'importe où, je crois que je ne peux pas résister.
Oui, parce que c'est une région que vous ne connaissiez pas.
Non, j'étais déjà allée au Mexique, mais pas au Chiapas. Et puis comme ça fait un petit peu peur, là, comme on est à plusieurs en bande, je me suis dit, oh oui, d'accord, je ne suis pas aventurière non plus. Hein.
Eh ben, je vous propose un extrait. Ce moment fatidique où avec Jean-Marc Généreux, vous croisez un gentil crocodile. Je dis gentil pour ne pas l'énerver.
Tu les vois les crocodiles?
Ouais, yes. J'en vois un là.
Faut pas qu'ils sautent dans le bateau. Hein.
Non, mais c'est ok hein, de les regarder de loin. C'est bien aussi.
Je crois que c'est mes premiers crocodiles de la nature.
On a fait beaucoup de rencontres dans notre voyage, hein, Elena?
Ouais.
Et beaucoup. Là, on a rencontré une nouvelle amie.
Crocodile.
Bon, faudra qu'il passe chez le dentiste parce qu'il y a un truc, je pense, une grosse carie en arrière. Ouais, et on avait une petite chanson pour lui. Allez, coco, allez, crocodile, sur les bords du lit, ils sont partis, n'en parlons plus. On va laisser dormir.
Vous avez eu peur du crocodile?
Ouais. Mais ça, c'est parce que Christophe dort, non? Il n'y a pas un truc comme ça?
Il est complètement absent de la séquence. On ne sait pas ce qu'il fait. Oui, oui.
Ah oui, d'accord. J'ai un souvenir comme ça. Oui. Et c'était une journée où j'étais malade. En plus, je ne sais pas si ça se sent.
Non, mais vous avez tous été malade, apparemment, dans le voyage.
C'était terrible.
Christophe a été malade. Ouais.
Ah oui, c'est la journée où j'ai ma combinaison nounours.
J'osais pas vous en parler. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé? On va vous découvrir dans une tenue qui est une sorte de, comment je pourrais dire, de pyjama en fait, en forme de nounours.
C'est mon pyjama nounours et j'imagine c'est grotesque. Ce jour-là, je voulais partir, je voulais rentrer, je suis allée voir la production, j'ai dit il faut que je parte tout de suite.
Non, parce que vous étiez malade.
Ah, j'étais malade. On est tous tombés malades. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je pense, a posteriori...
Pas boire d'eau du robinet, là-bas.
Mais on n'a pas bu, mais je pense que c'était un truc dû à la... à l'altitude.
Oui.
Je pense que c'est le mal des montagnes.
À plus de 2000 mètres au départ. Hein.
Je pense que c'est une très très grosse baisse de tension. Parce que j'avais rien de spécial, sauf que j'étais molle. Je ne sais pas si on me voit dormir, parce que j'ai dormi sur les tables écroulées.
Non, on vous voit dormir un peu en voiture.
Voilà, dans mon nounours.
Dans votre nounours, effectivement. Voilà.
Eh bien,
mais Christophe de Chavannes aussi a du mal à se réveiller le matin pour vous retrouver, pour partir en excursion.
Voilà. Ah non, c'était terrible. Et effectivement, c'est la journée où je suis en nounours et où on a vu les crocodiles. Voilà, j'ai ce souvenir.
Vous allez visiter 6 sites qui sont absolument remarquables dans cette région du Mexique, notamment un passage dans des cascades sublimissimes. Sublime. On n'a qu'une envie, c'est de prendre un avion pour aller visiter ces coins du monde. Quel est le souvenir le plus marquant pour vous ?
Je crois que c'est quand même l'entrée dans l'église San Juan de Chamula. En fait, on arrive en haut dans un petit village. Il y a cette église qui est au milieu de la place. Et puis, il y a ces Mexicains qui en protègent l'entrée et qui vous interdisent de prendre des photos et de filmer. Donc, en fait, on ne verra pas ça dans l'émission. Je crois qu'on nous entend sans doute à l'intérieur.
Même pas. On vous entend en ressortant, on vous témoigne, mais on ne vous entend pas à l'intérieur. C'est vraiment très respecté, justement. Ça donne un côté mystérieux à cette séquence.
Mais la claque est démente. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une église pareille. Quand vous rentrez là-dedans, le sol est jonché d'épines de pin, mais frais. Donc vous marchez sur quelque chose d'organique, mais ces épines sont déposées sur du marbre. Le sol est en marbre, donc il y a du froid et en même temps, la nature par-dessus, ça glisse un petit peu sous vos pieds. Et toute l'église est tapissée de végétaux. De fleurs blanches qui sortent des murs et en même temps il y a des bougies partout donc on se dit mais ça peut brûler, enfin il y a la nature, il y a le mystique, c'est absolument magique.
Alors vous parliez de mysticisme, il y a une autre séquence aussi qui moi m'a particulièrement émue dans l'émission où vous rencontrez une grand-mère qui va faire une cérémonie pour vous. Alors, c'est un honneur, hein, de ce qu'on comprend, en tout cas, en regardant l'émission. Elle vous débarrasse de toutes vos mauvaises ondes, c'est ça ?
Oui.
Et on vous sent très concentré et très imprégné de ce qui se passe.
Oui, parce qu'on n'a pas du tout envie de rire et on se prête au jeu. Et même, il en reste quelque chose. Moi, parfois, je me dis, mais est-ce que je ne vais pas mieux depuis ? Ouais. Est-ce qu'elle ne m'a pas vraiment débarrassée de certaines choses négatives et nocives. C'est extraordinaire. Et puis,
si vous avez la carte de visite, on est preneur avec Eva et Jules, on va aller faire une petite séance aussi.
Mais pourquoi on n'a pas des mauvaises ondes, Olivier Pouls?
Mais même s'il n'y a pas la magie, moi j'y crois à la magie, mais même s'il n'y a pas la magie, le fait que quelqu'un se donne le mal de se dire qu'il va le faire quelque chose pour vous, il est question d'amour, justement. Ouais. Voilà, on revient à tout à l'heure ce que je racontais sur l'amour et je le prends comme ça, c'est-à-dire le don de soi à ce moment-là, j'en fais quelque chose et ça devient une force.
Est-ce que c'est ça finalement les voyages ? C'est à la fois évidemment une façon de découvrir un autre pays, mais aussi à la fois de se découvrir soi-même et puis de découvrir celui qui est à côté aussi d'une autre façon ?
C'est une manière de découvrir l'altérité et de voir qu'on est, tous... interdépendants, voilà, on est tous liés. Moi, je suis pour une réforme. D'ailleurs, voici une proposition.
Allez-y, présidente Elena Noguera.
Bien sûr. Maintenant, je suis présidente. Moi, présidente, j'aimerais que l'on fasse un service humanitaire pour remplacer le service militaire. J'aimerais que chaque être humain soit obligé de donner une année de sa vie pour aller aider quelqu'un ou dans une contrée étrangère. Parce qu'en fait, on revient très modifié du voyage. Parce que regarder l'autre vivre autrement met en perspective sa propre existence, ses propres préoccupations, les hiérarchies, le système dans lequel on est, les codes. Et ça permet de prendre du recul et d'éventuellement revenir pour modifier les choses dans lesquelles on vit.
On vote pour Elena.
Ah oui, moi je vote.
Ouais, moi je vote.
Merci. Olivier Cros,
vous êtes directeur de campagne.
Vous avez déjà 3 voix. C'est bien.
Bon, on va partout tous les 4, partons en croisade.
Je rappelle les affiches.
Ouais. Je rappelle que Start au terrain, c'est ce soir à 23h25 sur TF1. Je vous le recommande vraiment. C'est avec un Christophe de Chavannes qui est presque au meilleur de sa forme. Je dis presque parce qu'il a eu quelques petits problèmes gastriques. Un Jean-Marc généreux toujours aussi touchant. Et vous, Elena Noguera, donc avec cette tenue si particulière qui m'a beaucoup fait rire. Merci. Elena Noguera, dans un instant, Ben H vient nous livrer sa carte postale mythomane, mais auparavant encore de la musique avec Lewis Capaldi et Someone We Love sur Europe 1.
Hello, it's Lewis Capaldi.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your eyes.
Extrait du premier album de l'artiste écossais Lewis Capaldi sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la carte postale vaguement mythomane de Ben H.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Eva Rock.
Il est 9h52, presque 53, tellement je sais bien maîtriser l'heure maintenant.
Elle s'applique,
Eva, maintenant. Nous sommes sur Europe 1, l'Esprit Sac, ne vous moquez pas. Jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invitée Elena Noguera. Elena, je vous présente Ben H, qui vient d'entrer dans ce studio.
Enchantée.
Enchantée.
Ben H, il nous fait voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes, hein, je précise. Vous revenez d'où aujourd'hui, Ben H hein?
Alors, bonjour à tous, bonjour le club. vraiment enchantée, Elena Noguera.
Enchantée,
alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi cette destination, mais ce matin, je vous ai préparé une carte postale qui sent bon le soleil, les plages de sable fin, le Monoï. En effet, on va bronzer. Je reviens d'un petit paradis sur terre, la Belgique.
Ah. Quand on pense Belgique, on ne pense pas forcément plage de sable fin.
C'est
pas
ni Monoï.
On est d'accord.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Pourtant, détrompez-vous, Eva. Je reviens tout juste de la plage de Blankenberge.
Blankenberg.
On dit Blankenberg. Ça a été mon stress toute la nuit. Je veux dire, comment on prononce ça? C'est un peu comme Ibiza. Hein. Ibiza avec 10 degrés de moins et pas de Katigeta, mais le sable, c'était absolument le même. Enfin, presque. Hein, les plages d'Ibiza, après la saison des festivals, hein, c'est plus vraiment ça.
Qu'est-ce
hein,
qu'il y a quoi? C'est pas propre
hein. Bah, je veux dire que si les préservatifs usagés jetés sur la plage, ça pouvait faire pousser des arbres, David Guetta, depuis le temps, il jouerait dans une forêt. Mais ça, c'est une autre chronique. Revenons à la Belgique.
Ouais, qu'est-ce que vous faisiez en Belgique, en fait, Ben H?
Eh ben, je testais pour vous le Pas Français Tour. c'est un voyage organisé belge qui propose une visite de toutes les villes où les stars belges qui ont brillé chez nous sont nées. Un voyage original pour nous rappeler que toutes ces stars, aussi talentueuses soient-elles, bah, elles sont belges.
Mmh.
Il y en a plein.
Bah ouais, parce que c'est une maladie en France. Hein. Quand on aime un Belge, il devient automatiquement français.
C'est vrai.
Ça, pour moi, Elena Noguera est française, par exemple. Hein. Lara Fabian, pareil, elle est française. Par contre, ça ne marche que si on aime les personnes en question. Hein. Par exemple, si à mes yeux, Jacques Brel est aussi français, Manuel Valls, lui, à mes yeux, il est complètement espagnol. On fait cet amalgame seulement avec les francophones qu'on aime. Hein. Bah, pas seulement les Belges. Hein. Du moment que l'accent n'est pas trop prononcé, c'est important. Hein. Typiquement, les Canadiens, c'est non, recalé. Personne n'a écouté par les Garous et s'est dit, tiens, c'est un petit gars du sud-ouest, celui-là. Non, tu écoutes par les Garous, tu as presque l'odeur du trappeur qui arrive avec l'accent. Tu peux pas te tromper.
Bon, alors du coup, vous êtes allé où en Belgique avec votre tour spécial, là ?
Absolument partout. Partout, hein, du nord au sud, d'est en ouest, dans les moindres recoins du pays. Bon, faut quand même compter une grosse demi-journée pour tout faire.
Oh non. Hein,
de Liège à Mons, de Anvers à Bastogne, en passant par Namur et Bruxelles, où Elena Noguera est née. La Belgique est magnifique et surtout super accueillante. Hein. La bière, rappelons-le, se boit avec modération. Mais autant vous dire que ce fameux modération avait dû oublier de prendre le Thalys quand je suis allé là-bas. Ils rigolent pas du tout avec la bière, les Belges. Hein. Je peux vous dire, Eva, que j'ai pris une mine.
Non, ouais, alors ça, par exemple, Benaj, vous ne pouvez pas dire à l'antenne en direct hein, sur Europe 1 que vous avez pris une mine.
Je n'ai pas dit ça, Eva. J'ai dit j'ai appris que mine, Olivier Mine, j'ai appris que Olivier Mine, il est belge. Et ben moi, je ne savais pas.
Ah bon ?
Ben oui, ouais, il est belge. Ouais, ça, j'en avais aucune idée. Bref, je vous recommande le Pas Français Tour. Hein, on apprend des trucs. On pense à Raymond Devos, à Hergé, à Nicordi ou Morane. On découvre un pays extraordinaire. Et on se dit que si le soleil est au sud, ben, le talent est souvent au nord. Alors bien sûr, tout ça, c'était du grand n'importe quoi. Mais si tout cela était vrai, ça aurait pu être vachement sympa.
Moi, j'aime bien le Pas Français Tour. Hein. Bah je trouve ça plutôt marrant.
Et pourquoi pas ?
Oui, il y a du talent aussi dans le sud. Hein. Je...
Oui, j'étais sûre ça,
mais il y a du soleil aussi dans le nord.
Et vous avez oublié ce truc dingue, c'est que Johnny Hallyday a été enterré en France comme ça, comme un... Mais il est belge. Hein.
Il est belge aussi.
Et
mais...
Et oui. On avait des petits messages pour
et François Damien.
Oui, mais on va pas faire la liste, on les adore tous. Non, mais je vous dis,
c'est l'enterrement français qui me fait rire.
Surtout aux États-Unis.
Oui, il est à Saint-Barth.
En plus,
ouais.
Oui. Enfin, voilà.
C'est un homme du monde.
Ouais, c'est un homme du monde, c'est ça. Lise Pressac, on a des petits messages pour Elena Noguera.
Des messages pleins d'amour, vous allez adorer, Elena. Il y a Rose qui nous dit « Il y a 15 ans, j'ai découvert l'album Nu dans la nature, Pépite et Météorite. Depuis, je suis fan inconditionnel de Elena, qui déambule dans divers domaines de si jolies façons. J'aime l'artiste et la femme. » Et il y a Sylvie qui nous dit « J'aime beaucoup Elena Noguera pour son éclectisme, sa liberté. Quand elle parle d'amour, il y a dans sa voix du rythme de Nougaro. J'adore.
» Oh là là,
ça, c'est un beau compliment.
C'est le club de l'été. Bah, c'est génial. C'est comme ça. Vous restez avec
moi
nous.
Moi qui voulais de l'amour, envoie-moi. Bah, voilà.
On va continuer à parler d'amour parce qu'on va partir pour votre ville natale, Bruxelles, et il y a beaucoup d'amour à Bruxelles. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1 avec de l'oxygène. Et oui, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des bons plans, des idées de sortie et des recettes simplissimes. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invitée Elena Noguera. Lise Pressac, direction Bruxelles ce matin. Pour y faire quoi précisément ?
On n'ira pas sur la Grand Place, on ira voir un petit peu le Bruxelles insolite et notamment le Bruxelles bande dessinée.
Ah, ça m'intéresse. Olivier, la Belgique, c'est votre patrie. Quel est l'ingrédient qui a retenu votre attention ce matin ?
Ben, nous allons parler de spéculoos, évidemment. Pas de Belgique sans spéculoos. Vous aimez les spéculoos, Elena ?
Ah ben voilà. Mais bon, on n'en mangera pas en plus. Vous n'en avez pas amené, c'est malin. Elena.
9h, 11h, le club de l'été.
Je me suis arrêtée parce que je savais qu'il y avait une virgule, ce qu'on appelle un petit son. Voilà. Elena Noguera, à ce moment-là de l'émission, c'est un peu nostalgie obligatoire. On aime bien aussi au club de l'été. On monte à bord d'une machine à remonter le temps, mais uniquement en musique. Par exemple, est-ce que vous savez ce qu'on chantait à l'été de l'année de votre naissance ? Est-ce que je peux
Oui, 1969.
Oui.
Non, je sais pas du tout.
Et j'adore cette chanson.
Ah bah oui.
C'est vrai ?
Je ne connais moi non plus.
Ah ouais, Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Version de Jane Birkin. Hein. Oui, vous savez qu'il y avait une version avec Brigitte Bardot qui avait été interdite entre-temps, quoi.
Bah pas mal. Je suis née érotique, donc c'est bien.
Alors ce qui suit va peut-être moins vous plaire.
Hein ?
Ouais, 1991, vous devenez maman. Oui. Est-ce que vous savez ce qui passe en boucle sur nos radios en France à ce moment-là ?
Ah non.
Alors, vraiment, on va écouter que 2 secondes.
C'était la c'était vraiment 2 secondes. Ah ouais.
Non, mais, quand je dis 2 secondes,
ils sont coquins
en régie. Ouais. La Zoubida.
Ah ouais, la Zoubida. Oui, oui.
C'est marrant, ce n'est pas vraiment resté dans l'histoire.
Non,
de
la musique, c'est vraiment les musiques d'été qu'on écoute autour du barbecue.
Mais il y en a eu des mieux.
Oui,
la Lambada, c'était plus sympa.
Ah oui, c'était plus sympa. En 2009, vous décidez de vous présenter au baccalauréat. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Ah oui,
Eh bien, j'ai la capacité de me confronter à mes fantasmes. J'ai cru toute ma vie que j'aurais dû faire des études et devenir psychologue pour enfants, pour m'occuper d'enfants et devenir la nouvelle Françoise Dolto. Je le dis avec beaucoup de gêne, mais j'ai cru. Et donc, pour ce faire, il fallait donc avoir un bac. Pour faire des études de psychologie, il fallait avoir un bac que je n'ai pas eu puisque j'ai bac moins 3. Donc, à 40 ans, je me dis, j'ai 10 ans pour faire mes études et à 50 ans, je serai donc la nouvelle Françoise Dolto. Eh bien, donc, je suis allée passer mon bac pour avoir mon passeport pour entrer à l'université. Or, pendant cette année-là, je suis bien allée à l'école, etc. Mais je me suis surtout rendu compte que j'étais exactement à l'endroit qu'il fallait, que pendant cette année, je n'ai pas ouvert un nouveau livre de psychologie, mais que j'ai écrit des chansons et des livres et que je chantais toute l'année. Et je me suis dit,
en fait, c'est ce que je veux faire.
C'est vraiment ça que je voulais faire. C'est ce que je fais. Et mais alors, j'ai donc abandonné ma carrière de psychanalyste pour enfants.
Mais alors, vous allez rire parce que est-ce que vous savez ce qu'on chantait cet été-là de 2009?
Une chanson de Françoise Dolto.
Non. On chantait ça. Oui. Ah bah, le ça m'énerve, vous en souvenez cette
non,
chanson
pas du tout.
C'est pas... Oui, c'est vrai.
Non, pas du tout.
C'était un truc très agaçant, mais il décrivait tous les trucs qui l'énervaient dans la vie. Je me suis dit, tiens, est-ce que Elena Noguera, elle est énervée parfois dans la vie?
Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, dès qu'il y a des manques de respect, dès qu'on me traite comme une femme et non comme un individu, et que ça m'énerve.
Ben voilà, ça m'énerve. On va pas s'énerver, on va prendre le Thalys et on part à Bruxelles, vous êtes d'accord?
Oui.
Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Ramène tout le temps.
Ça discute dans le studio. Il est 10h12, nous sommes toujours en direct.
On évoque le souvenir belge.
Jusqu'à 11h, ouais. Avec notre invité, Elena Noguera, qui partage ses souvenirs de Belgique.
On cherche des chocotofs.
Avec Olivier Pouls. On va bientôt parler de culture avec Lise Pressac et son journal de la culture. Un petit cadeau avant, Elena, pour vous, de Cathy Carcenti, qui est une illustratrice. Ça s'appelle Souvenir Pop. Elle a demandé à plein d'artistes différents de raconter un morceau de musique qui avait changé dans leur vie. Eh bien, figurez-vous, vous êtes cités. Alors, avec votre sœur, en l'occurrence, et c'est Barbara Carlotti qui parle de vous. Et j'adore ce petit souvenir pop. Et il y avait déjà eu un premier ouvrage de Cathy Carcenti qui était absolument génial. Et voilà, c'est un petit cadeau pour vous. Et je vous recommande vraiment ce petit livre illustré qui est très, très chouette. Elena, on va faire le petit journal de la culture, enfin le grand journal de la culture avec Lise. Lise, on va commencer par avoir des nouvelles du futur James Bond.
Oui.
Yes, my name is Bond. James Bond.
Eh bien, c'est plus.
Imaginez que l'agent 007 soit une femme, et une femme noire qui plus est. Alors nous, on adore l'idée. Le Daily Mail révèle que l'actrice britannique Lashana Lynch, qu'on a vu récemment dans Captain Marvel, sera à l'affiche du prochain James Bond. Alors que les moins ouverts d'esprit se rassurent, elle ne prendra pas vraiment la place du célèbre agent secret, juste son matricule 007.
Et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal. Ce qu'on sait, c'est que Daniel Craig tombe sous son charme dans la scène d'ouverture du prochain opus, mais qu'elle lui résiste. Notez d'ailleurs qu'on ne doit plus parler de James Bond Girls, mais de James Bond Women, désormais. Un James Bond post-MeToo, donc, dont le scénario a en partie été écrit par Phoebe Waller-Bridge. Elle est créatrice des séries Fleabag et Killing Eve.
Génial.
Et elle est connue pour ses positions féministes. Le résultat sera à voir en salle en avril prochain.
Voyez, formidable. Voilà, on continue. Mmh. Petit écran maintenant, avec la suite du film de Lucien Jean-Baptiste, Il a déjà tes yeux.
Oui, l'histoire d'un couple noir qui adopte un bébé blanc. Le film sorti il y a 3 ans aura une suite, mais à la télévision, une série de 6 épisodes de 52 minutes diffusée l'année prochaine sur France 2. Alors dans cette suite, le petit Benjamin a grandi. C'est un ado de 14 ans qui décide de partir à la recherche de sa mère biologique. Les épisodes sont tournés en ce moment près de Paris.
On poursuit avec une bonne nouvelle pour les fans de Sting.
Oui. Après avoir annulé 6 concerts en Allemagne, en République tchèque...
C'est Olivier Pouls qui chante
et
derrière.
Oui, c'était ça. Le chanteur britannique remontera finalement sur scène en France. Il sera demain à Lyon en nuit de fourvière. C'est une infection virale à la gorge qui a poussé Sting à interrompre sa tournée, mais le chanteur va mieux. D'autres concerts sont d'ailleurs prévus en France. Il sera cet été à Marciac, Carcassonne, Vitrolles et Colmar. Et cet automne à Paris, Orléans, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Grenoble et évidemment Nice, Eva.
Ah, il sera à Nice.
Mais ouais, finalement, il sera à Nice.
Mais tout le monde
formidable.
Va à Nice.
Tout le monde va à Nice.
Mais oui, mais il sera où à Nice?
Il sera à Nice en concert, lui. Voilà.
Oui, d'accord, oui, voilà. D'accord.
À Nice, où il y a aussi le Nice Jazz Festival, toujours du beau
mais
monde.
Mais bien sûr.
Je ne sais pas, c'est le pouvoir d'attraction de cette ville est incroyable. C'est au Théâtre de Verdure et Place Masséna. Une programmation qui va au-delà du jazz. Ce soir, Néné Cherry, Jacob Banks, Nile Rodgers et Chic. Et demain, vous pourrez notamment écouter Angèle.
Laisse-moi te chanter.
C'est encore de la Belgique, ça.
Ouais,
je me trompe pas.
C'est encore de la Belgique.
J'adore Angèle. Je vous dis, j'ai un truc, quoi.
Jeudi, les Black Eyed Peas. Vendredi, Ibrahim Malouf qui invite Aïdouti Orchestar pour célébrer les 10 ans de leur rencontre.
Je peux vous dire que ça va danser au Nice Jazz Festival, parce que Ibrahim Malouf avec cette formation, c'est absolument incroyable. On vous recommande grandement ce concert et tous les concerts.
Et tous les concerts, c'est jusqu'à samedi au Théâtre de Verdure et Place Masséna, c'est à Nice, évidemment.
C'est une très jolie ville, Nice, Elena Guerra.
J'adore, j'y ai vécu.
C'est vrai?
Ouais, j'y ai passé presque 2 ans, j'étais au TNN de Nice, je jouais au TNN, ça veut dire Théâtre National.
Ouais. Et voilà. C'était pour quelle pièce?
Alors j'ai joué Faces, mise en scène par Daniel Benoît, et après Roman d'un trader. Et voilà, et j'avais laissé mon cœur là-bas, donc évidemment j'y allais beaucoup. Donc j'ai passé 2 ans là-bas, beaucoup, et j'adore.
Vous avez temps de sortir, d'aller dans des musées, de faire des concerts, des festivals. Vous prenez ce temps-là pour vous?
Hier, j'étais voir Hammershøi au musée Jacquemart. Il faut y aller absolument. C'est très, très beau. C'est un peintre, je crois, danois, pour ne pas dire des bêtises. En tout cas, il est du Nord. Et il travaille les grilles et les lumières de manière somptueuse. Donc, oui, j'étais à Aix, en Provence, au Festival d'art lyrique le week-end dernier.
Ah oui, vous n'arrêtez pas. Ouais.
Ah, j'adore. Mais je vous dis, j'ai une boulimie.
Oui, ah oui, c'est même...
Je suis boulimique.
D'accord, mais c'est bien.
Il faut que je mange tout ce qui est possible.
Et qu'est-ce que vous avez vu à Aix-en-Provence, par exemple?
Alors, à Aix-en-Provence, j'ai vu la Tosca mise en scène par Christophe Honoré. Et après, j'ai vu cette chose merveilleuse et magnifique. C'était la plus belle claque, je pense, de ma vie. C'est Romeo Castellucci qui mettait en scène le Requiem de Mozart. Et
la claque.
C'est tombé par terre.
Ouais. Est-ce que c'est vous écoutez un Requiem de Mozart quand vous êtes chez vous? Ou c'est vraiment... une musique est faite pour être écoutée en concert et la vivre en concert?
Bah, en fait, j'en sais rien. Je vais l'écouter maintenant parce qu'en fait, j'ai aucune culture classique. Donc, j'achète des places de concerts classiques et d'opéra, mais sans savoir, par curiosité, pour voir. Et donc, j'ai découvert le Requiem de Mozart, mais je connaissais même pas Romeo Castellucci. Il y a plein de choses que je ne connais pas, mais je vais à la rencontre de... Pour connaître. Donc maintenant, je vais essayer le Requiem à la maison.
Mais c'est génial. Oui. C'est une jolie curiosité. Hein. Olivier Pouls, je vous vois complètement baba.
Ah bah, moi, je bois les paroles en ce moment.
Ah oui, dès que vous pouvez dire le mot boire, Olivier Pouls, il est là.
En Belgique, on boit.
Oui, c'est ça, mais
on est très ouvert culturellement.
Hein. Oui. Avant de partir du côté de Bruxelles, nouvelle parenthèse musicale avec un garçon qui soigne très très bien ses textes. Il s'appelle L'Homme Pâle, il est sur Europe 1 avec Trop Beau.
Le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.
Thank you. de son vrai nom, Antoine Valentinelli. L'homme pâle doit ce surnom à ses copains qu'il croyait toujours malade. Toujours malade, pardon, à cause de son teint pâle, l'homme pâle, voilà. C'est un des artistes à découvrir au Festival des Vieilles Charrues ce week-end, festival dont nous sommes partenaires et que vous fera vivre en direct Émilie Mazoyer, évidemment, pendant tout le week-end. Teint pâle, où aller ? On vous attend, c'est dans un instant sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend
avec le Club de l'été sur Europe 1.
Il est 10h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club, n'hésitez pas à réagir, à nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Elena Noguera, ça y est, on est prêt, on part à Bruxelles, vous êtes d'accord ?
Oui.
Bruxelles, en une odeur, ce serait quoi pour vous ?
Ah, on en parlait tout à l'heure, en antenne, ce seraient les frites quand même, les frites ou les gaufres ?
Les frites.
Moi, je prends les deux.
Ah oui, moi aussi.
D'abord des frites et puis des gaufres en dessert.
Mais moi, j'ai eu la chance de goûter les frites que vous savez hyper bien faire, Olivier Pouls, je dois le reconnaître.
Ah oui,
et ça a été vraiment une révélation pour moi. Ah, tout d'un coup, les frites ont eu un autre goût.
Parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un secret. C'est la graisse. C'est la graisse de bœuf, la cuisson, la double cuisson dans la graisse de bœuf.
Et la double cuisson. Pas vegan.
Et la variété de pommes de terre. Non, c'est pas vegan, mais c'est tellement bon.
Je sais. Lise, il va nous falloir surtout des yeux et des oreilles pour vous suivre ce matin.
Oui, direction de Bruxelles pour une visite à la fois insolite et consacrée à la bande dessinée avec Marc Margem qui est guide touristique. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour le club, bonjour Eva, bonjour Elena.
Alors,
bonjour.
Il paraît que vous aussi vous êtes tombé dans une potion magique quand vous étiez petit, celle de la bande dessinée. On va pas voir la Grand Place ou le Mannequin Piece avec vous, c'est trop classique. On va voir quoi alors ?
Oui, oui, mais c'est vrai, il y a 57 fresques de bande dessinée qui sont disséminées dans quasiment toutes les communes de la région de Bruxelles-Capitale. Vous vous rendez compte, 57 fresques de 56 différents auteurs. Vous n'avez ça dans aucune autre capitale au monde. Et alors, c'est vrai que cette promenade nous mène, donc, comme je vous disais, dans différentes communes et on y mélange plusieurs thèmes. C'est d'ailleurs chez nous, chez Bruxelles Bavard, la visite qui a le plus de succès parce qu'elle est ludique quand on parle de bande dessinée, mais entre ces fresques de bande dessinée, on peut passer par la Grand Place, on parle de l'Hôtel de Ville, on parle de la présence de Bruxelles dans les albums de bande dessinée, parce que vous connaissez Jean Graton, vous connaissez Michel Vaillant, oui. Et bien dans un des albums, vous avez Racing Show, vous avez une poursuite impitoyable dans les rues de Bruxelles, donc Jean Graton, naturellement, a dû aussi représenter la ville de Bruxelles, donc c'est une superbe carte postale en bande dessinée. Et donc, c'est vrai qu'on peut aussi joindre l'utile à l'agréable, on ne doit pas seulement parler de bande dessinée, parce que c'est vrai que nous avons différentes promenades de bande dessinée, parce qu'il y en a tellement qu'on doit demander aussi aux visiteurs quelle partie de la ville de Bruxelles ils veulent voir. Vous avez le centre-ville de Bruxelles.
C'est en fonction des quartiers, forcément.
Ah oui. Ah oui, tout à fait. Vous avez déjà une dizaine de fresques de bande dessinée donc dans le centre-ville, mais vous en avez aussi une dizaine dans les Marolles. Le Marolles, c'est le quartier du marché aux puces, au pied du palais de justice. Vous savez que c'est là où Tintin est né, donc dans ses albums, c'est là où il découvre la licorne, le secret de la licorne. Avez-vous vu le film de Steven Spielberg et Peter Jackson?
Oui.
Le secret de la licorne.
Oui, oui, bien sûr.
Ah, d'accord. Donc, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez en tout cas donc le visionner, parce que les 20 premières minutes se passent naturellement dans les Marolles. Donc, vous voyez qu'on a la bande dessinée absolument partout. Et ces fresques de bande dessinée sont une initiative du Centre belge de la bande dessinée. Si nous avons un Centre belge de la bande dessinée, c'est grâce à Hergé.
Oui, oui, d'accord, bien sûr.
Si on veut des infos sur vous, ça s'appelle Bruxelles Bavard et on comprend pourquoi, hein, Marc.
Écoutez, imaginez-vous qu'on soit des guides qui ne soient pas bavards. Je pense que la première chose qu'un guide doit être, c'est quand même bavard.
On
oui, c'est absolument. Donc j'entends que vous essayez de m'interrompre, mais ça marche pas. Ça marche pas énormément bien.
Non, mais Marc, juste une seconde, c'est parce qu'Elena, elle connaît très bien ce quartier, Elena
Noguera. Oui, les Marolles. J'étais à l'école au Marolles, j'étais à Émile André, rue des Capucins.
Oui, 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 oui.
Voilà.
Oui, oui, mais en plus de ça, vous savez, je sais. Parce que, chère Elena, je parle de vous.
Ah bon ?
Dans
le tour du guide, dans le guide tour.
Donc, je parle de vous dans une... Ah oui. C'est vrai, donc dans une visite que j'ai spécialement créée pour Bruxelles Bavard, quand, donc, tout, ça s'appelle « Toutes les musiques qu'on aime à Bruxelles ». Alors, ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est ce crossover, c'est ce débordement musical dont il faut absolument parler parce que vous êtes, je dirais, quasiment une des uniques artistes belges qui fait ce débordement musical, je trouve, donc il faut absolument en parler. Donc c'est pour ça qu'en effet, là j'explique aussi que vous avez vécu dans les Marolles en même temps que Tintin.
C'est vrai. Je suis une marolienne.
Marc Magem, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vraiment, on vous adopte. Vous rappelez quand vous voulez. On vous adore, Marc. Voilà. En quelques secondes, vous nous avez donné envie d'aller dans la cité de la bande dessinée, Olivier Pouls.
Oui, puis pour boucler la boucle de la bande dessinée, oui. Faites un petit tour à Louvain-la-Neuve. C'est à 20-25 km de Bruxelles. C'est là qu'est installé le musée officiel Hergé, le musée Tintin.
Et ça mérite
c'est
le
magnifique.
Détour.
Ça mérite absolument d'aller y faire un tour.
Marc Magem, qui était guide touristique et qui est toujours d'ailleurs, hein, éphéreux de bande dessinée. On vous embrasse. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Toutes les infos, elles sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1, évidemment. Olivier Pouls, la gastronomie belge n'a plus aucun secret pour vous. On va aller goûter du spéculoos, si je ne me trompe pas. On se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1. 9h-11h. Eva Rock.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Elena Noguera, est-ce que vous êtes du genre gourmande ou vous faites très très attention à votre ligne ?
Les deux. Les deux,
ah,
mais ne sont pas
bien.
Incompatibles.
Ouais, ça c'est bien.
Je suis une gourmande qui sait gérer.
Et votre Madeleine de Proust ?
Alors c'est la sauce tomate de ma mère.
Ah c'est pas mal, avec de la vraie tomate.
Avec de la vraie tomate et puis à la portugaise avec des oignons et de l'ail.
Oui, comme dans le sud de la France, on fait pareil.
Ah, oui. Ah bah oui, oui.
Olivier Pouls, quel est le produit à déguster absolument à Bruxelles ?
On parlait tout à l'heure avec Elena, on se baladait dans les rues de Bruxelles, on évoquait notre enfance, nos souvenirs, nos odeurs, on aurait pu faire plein de choses. Mmh. Mais c'est vrai que quand on déambule dans les petites rues bruxelloises, on est souvent happé par soit l'odeur des frites, effectivement, ouais. Les fameuses frites côtes, soit un peu plus tard dans l'après-midi par l'odeur des gaufres, la fameuse gaufre de Liège, vous savez, qui croustille, qui a ce dessus caramélisé avec le sucre qui fond dedans.
C'est bon, on a faim. Ah
ouais, ça y est.
Juste emballé dans un petit papier.
Oui, on voit bien.
Et puis surtout, pour moi, la saveur de Bruxelles, ça fait appel à Saint-Nicolas, c'est la saveur du spéculoos. Oui. Je ne sais pas ce que vous en dites.
Ah oui, j'adore toujours.
Et alors, quand on parle spéculoos et qu'on se balade non loin de la Grand Place, on s'arrête chez...
Dandois.
La maison Dandois, une des plus vieilles maisons de tradition des spéculoos. Et nous sommes au téléphone avec Alexandre Elson, septième génération de fabricant de spéculoos chez Dandois, je crois. Bonjour,
oui,
Alexandre.
C'est bien ça.
Bonjour Alexandre.
Alors, racontez-nous l'histoire de cette maison et puis surtout l'histoire du spéculoos que traditionnellement, en fait, on ne consommait avant que le 6 décembre au moment de la Saint-Nicolas.
Oui, en effet, la maison, elle a été créée en 1829, donc elle est un an plus vieille que la Belgique.
Elle-même, oui.
Et donc, elle fête ses 190 ans cette année, toujours familiale. Donc moi, avec mon frère, je représente la septième génération aujourd'hui, et on perpétue ce savoir-faire là qui a été transmis de génération en génération, avec comme produit phare le spéculoos, qui est un produit assez emblématique de Bruxelles, et qui, comme vous l'avez expliqué, était essentiellement pour les enfants sages, distribué le 6 décembre.
Ça. Il fallait être sage pour avoir droit à un spéculoos, en fait.
Oui, oui. Et puis l'étymologie du mot spéculoos est un peu discutée par les linguistes. Certains, ça viendrait du latin, soit spécies, les épices, ou alors speculator, qui est en fait l'évêque. Et beaucoup de spéculoos au départ, et d'ailleurs chez vous, on voit ces anciens moules qui ont servi à l'élaboration des spéculoos, représentent en fait un évêque, le Saint-Nicolas.
Tout à fait. Et alors, il y a encore, comme c'est un très vieux produit, et encore une autre version aussi qui serait de spéculum, qui veut dire miroir, parce que justement, ces grands moules en bois font l'effet miroir au moment où on démoule la pâte avant de l'enfourner dans le four.
Alors, je dois vous avouer que depuis que je suis né, je me suis enfilé des kilos et des kilos de spéculoos d'endois dans toute ma carrière. Je vais quand même tenter de vous poser la question. Je sais que vous n'avez pas à répondre.
Ah, mais moi,
est-ce
je vais
qu'il
la poser,
y a un petit secret ? Est-ce que la recette
mais
du
déjà,
spéculoos...
Mais déjà, il y a quoi dedans, pour les gens
parce
qui savent
nous,
pas ce qu'est un spéculoos.
Moi, du Sud, si vous voulez, spéculoos, j'ai goûté ça quand je suis arrivée à Paris avec mon café, en fait. Hein. Donc, je ne sais absolument pas, par exemple, Alexandre, ce qu'il y a dans le spéculoos.
Oui, déjà, c'est quoi un spéculoos à base de quoi ? C'est relativement simple. Hein. C'est de la farine, du beurre, du bon beurre, de la cassonade, et puis le fameux mélange d'épices. Et c'est ça le fameux secret.
Ah, et c'est ça que vous n'allez pas nous dire ce matin, en fait.
Oh ben, je peux vous donner un peu les bribes des épices qu'il y a dedans. On va retrouver de la cannelle, de la girofle. Et puis, évidemment, c'est ça qui va faire un peu chaque signature du spéculoos d'une maison, ou en tout cas des spéculoos artisanaux.
Et alors,
forcément, ben, les bonnes matières premières, ça va de soi. Et c'est ce qui va donner ce croquant, ce croustillant à la... parce que le sucre va caraméliser lors de la cuisson.
Et alors, des moules particuliers et une cuisson particulière.
Oui. Alors, évidemment, tout le spéculoos, c'est ça, on le retrouve. Il faut s'imaginer dans les petites tailles que vous avez à côté de votre café de 2-3 cm, mais les tout grands formats, quand les enfants reçoivent à la Saint-Nicolas, font jusqu'à 80 cm de haut. Ce qui est assez extraordinaire.
J'ai pas été assez sage, Alexandre. J'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de grands spéculoos.
Eh bien, il va falloir y remédier. Hein.
Bah, je crois bien.
Et alors, vous faites un truc absolument redoutable, c'est que de temps en temps, vous sortez ces spéculoos, mais alors avec dessus une couche de chocolat noir.
Oh, ça doit être terrible, ouais. Ça.
Et alors, l'association spéculoos-chocolat noir, quand ça craque avec les épices et le chocolat, c'est à tomber par terre.
Ça, je vous l'accorde. On reste gourmand. Et c'est vrai que le spéculoos, on l'a décliné un peu sur toutes les facettes et dans pas mal de façons différentes. Et l'association du chocolat fonctionne très très bien, qu'on fait avec un ami chocolatier à Bruxelles qui s'appelle Laurent Gerbeau au passage. Et il vient mettre une grosse couche de chocolat sur un gros spéculoos, et ce qui fait un mélange explosif.
Et les nanogara, vous étiez assez sage quand vous étiez enfant pour en avoir des spéculoos?
Oui, mais nous, on n'a pas beaucoup eu de spéculoos. C'est pour ça que j'ai découvert ça sur le tard.
Ah oui.
Mais comme mes parents étaient quand même tous les deux d'origine portugaise, il y a des choses qui ne passaient pas trop. Et donc, j'ai découvert à Paris, je crois. Enfin, je savais que ça existait là-bas. Oui, mais oui, oui. Voilà.
Alexandre Elson, moi, j'avais l'impression aussi qu'on pouvait utiliser le spéculoos pour un crumble. Vous savez, on peut effriter votre biscuit sur des pommes, par exemple.
Et pour un cheesecake aussi.
Et le cheesecake.
Tout à fait, tout à fait. En topping, comme ça, et comme base, on peut les moudre, les broyer et en faire même de la glace. Nous, on l'utilise pour faire de la glace.
Ah oui, c'est super bon en glace.
Oui. C'est super bon. Olivier, vous avez l'eau à la bouche.
Oui, j'ai juste envie de prendre le Thalys, de foncer près de la Grand Place, parce que on peut préciser que chez vous, c'est également un salon de thé, donc on peut soit acheter les spéculoos, soit les manger sur place, prendre du café, des jus d'orange, etc. Et puis manger aussi les fameuses gaufres, parce que vous les faites aussi.
Les fameuses gaufres,
oui,
dont je vous entendais parler en introduction, nous faisons aussi la gaufre de Bruxelles, parce que vous avez évoqué la gaufre de Liège.
Oui.
Il y a la fameuse gaufre de Bruxelles qui est encore plus aérienne, plus aérée, qui est plus croustillante.
Mais qu'on garde, là, pour le
Alors,
coup.
Alors, Alexandre, ce que je vous propose, c'est qu'on sort de l'émission à 11h. Je crois qu'il y a un Thalys à 12h30. on arrive sur le coup des 15h, 15h30 pour le goûter.
On sera là avant.
Ah bon, d'accord. Pour 1h20. Pour 1h20, voilà.
1h20,
pour le goûter, c'est parfait, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est parfait.
Eh ben voilà.
On vous attend.
Ben, merci beaucoup, Alexandre Elson. Merci infiniment. Olivier Pouls, on rappelle le nom de la maison.
La maison d'Andois, il y a plusieurs points de vente, mais la maison mère se trouve à quelques encablures de la Grand Place, et puis ça permet comme ça d'aller faire un tour sur cette Grand Place qui est quand même l'une des plus belles du monde.
Je ne vous oublie pas, Olivier Pouls, on a un vrai faux à discuter, on le fera à la fin de l'émission.
À la fin de l'émission,
avec
absolument.
Une vraie question,
et puis on
très
donnera
importante.
La recette d'une salade belge.
Exactement. Et après Bruxelles, Lise a une nouvelle fois trois idées de destination à découvrir, à vos calepins, et à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts Olivier Pouls et Lise Pressac. Et nous sommes bien accompagnés, très bien accompagnés en l'occurrence par Elena Noguera ce matin. Elena, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous continuez à beaucoup voyager?
Oui, j'ai la bougeotte. Et je suis un oiseau voyageur.
Et quel est le coin que vous rêvez de visiter, que vous n'avez pas encore découvert? Est-ce qu'il y en a une de destination de rêve?
Oui, il en reste. J'ai déjà beaucoup vu de choses. J'ai pas vu l'Inde. J'aimerais voir la Chine, mais les campagnes, la campagne de Chine et le Japon aussi à la campagne.
Ah oui, moi aussi, le Japon. Destination. Prochaine destination.
Non, ça bon, ça, moi, ça me va.
On saura tout. Vous voulez poser les dates?
Non. Je vais déjà aller prendre le Thalys pour Bruxelles et je vais voir si je ne veux pas me perdre. Lise Pressac, qui s'y présente, elle a trouvé trois expositions sur la mode qui sont à visiter partout en France. Et on va débuter par l'exposition Open My Med à Marseille.
Elle réunit 30 jeunes créateurs de 11 pays méditerranéens, anciens lauréats du concours Open My Met Prize entre 2010 et 2018. Ils sont exposés pour la première fois ensemble et ils sont bien entourés. Leur création dialogue avec celle de Chanel, Paco Rabanne, Azzedine Alaïa, Christian Lacroix et Yves Saint-Laurent. C'est la maison mode méditerranée qui produit cette exposition installée dans le château Borély, qui est aussi musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode. Depuis 30 ans, la MMM, donc la maison mode méditerranée, est un incubateur de cette filière mode internationale à Marseille et dans toute la région. C'est elle qui organise justement depuis 2010 cet Open Met Prize qui est ouvert à 19 pays méditerranéens. C'est une synthèse en fait cette exposition de 3 décennies de mode en Méditerranée. La direction artistique est confiée à Yassine Awadi qui est couturier et premier invité d'honneur du festival Open My Med et Mathieu Pabio, styliste et président de la maison de couture Awadi justement. L'exposition se tient au Château Borély, c'est à Marseille jusqu'au 15 septembre et l'entrée coûte entre 3 et 6 euros.
Voilà, on a encore un peu de temps pour aller voir cette exposition. Oui. Direction maintenant Calais pour visiter évidemment la cité de la dentelle.
Oui, autre ambiance, située au cœur d'une authentique usine de dentelle du 19e siècle. Le musée a été inauguré il y a 10 ans. Et en ce moment, vous pourrez y voir une exposition du créateur belge Olivier. Ben, j'ai même pas fait exprès.
Bah oui.
Alors, est-ce que je prononce bien Teskens? Ça s'écrit T-H-E-Y-S-K-E-N-S.
Oui, je pense que c'est bien.
Il a été successivement directeur artistique des prestigieuses maisons de couture Rochas et Nina Ricci. Son exposition intitulée In Presencia est le fruit de la rencontre entre son univers et les collections historiques, textiles et industrielles de ce musée de la dentelle. Tout au long de l'année, d'ailleurs, cette cité présente des ateliers pour des petits, pour des grands. Il y a des ateliers stylisme, intergénérationnels, des arts plastiques que vous pouvez faire en famille, que vous soyez débutant ou initié. L'exposition In Presencia, en tout cas, elle, est à voir jusqu'au 5 janvier. Il y a le temps à la cité de la dentelle et de la mode, c'est à Calais. L'entrée coûte 4 euros, c'est 7 euros si vous voulez profiter aussi de voir les collections permanentes.
Et puis, troisième exposition, mode, à voir, vous voyez, mode par exemple, le haut, on entend que c'est pas le même haut que tout le monde, c'est à voir cet été à Argenton-sur-Creuse.
À votre service, du maître d'hôtel au valet de chambre, c'est le nom de cette exposition consacrée aux tenues des domestiques. Elle se tient au musée de la chemiserie et de l'élégance masculine.
Ah, c'est bien, ça,
c'est
ça change
musée,
un peu.
Ouais. Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre, ville où il y a 150 ans s'ouvrait le premier atelier de confection de chemises. C'est ainsi que la ville est devenu un haut lieu de la chemiserie et qu'un musée consacré à cette histoire a vu le jour. En ce moment, vous pourrez donc y voir cette exposition consacrée aux tenues des domestiques, tenues qu'on appelle livrées et qui permettaient d'établir une hiérarchie même entre les domestiques, ceux plus proches des maîtres et ceux qui étaient relégués à des postes encore plus subalternes. Une vingtaine de livrées datant du 20e siècle, du début 20e sont ainsi présentées, surtout celles de domestiques haut placés, grâce notamment à un don du musée des Arts Déco de Paris fin 2018. Certaines pièces rappellent des personnages de la culture populaire comme Nestor, le majordome du capitaine Haddock.
On y revient toujours, hein,
personnage des Aristochats. L'exposition à votre service du maître d'hôtel au valet de chambre est à découvrir au musée de la chemiserie et de l'élégance masculine. C'est à Argenton-sur-Creuse jusqu'au 10 décembre. L'entrée coûte 5 euros, 2,50 euros pour les moins de 18 ans et les étudiants. Elle est gratuite pour les moins de 6 ans.
Elena Noguera, vous préférez quoi? Calais et les dentelles, Marseille avec les grands créateurs.
Ah, Argenton.
Argenton, ouais. Voilà. Ouais. La mode masculine. Ah oui, ça a l'air très très bien. Ouais. Ouais. Et alors, on termine toujours cette séquence avec un autre bon plan de Lise. C'est l'application à télécharger pour passer un bon été. Lise, c'est quoi aujourd'hui?
C'est un site. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voyager seule, Elena.
Oui.
En tout cas, s'il y a une plateforme qui existe, qui a été conçue pour les femmes seules, qui voyagent et qui ne veulent pas se retrouver hébergées chez n'importe qui. Le site s'appelle La Voyageuse et elle permet de trouver des hébergeuses à Paris, Marseille, Bordeaux. Des femmes donc, qui se proposent de vous héberger chez elles. Et elles ont été sélectionnées après contrôle d'identité, un entretien téléphonique, oui, une rencontre. Il y a même des suivis après accueil. En tout cas, ça a été fait de façon à ce que les femmes soient rassurées si elles voyagent seules. Ça s'appelle La Voyageuse. Super. Et c'est à retrouver sur la-voyageuse.com.
Ah, c'est une très bonne idée, ça.
Ouais. Mmh, mmh.
Ouais, ouais. Mais vous avez toujours voyagé seule ou
Non, ça m'arrive.
Pas tout le temps. Ouais,
pas
ça vous
toujours,
arrive, ouais.
Mais ça me fait pas peur. J'aime bien. J'aime bien ces temps suspendus où on est tout seul, on réfléchit, on prend des bus. J'aime beaucoup les bus.
Le dernier grand voyage que vous avez fait qui vous a marqué, à part celui au Mexique avec Christophe de Chavannes.
Le Mexique avec Christophe de Chavannes, c'était ça. Non, mais même là, il y a 2 semaines, j'étais à Florence. Donc, j'ai fait Florence-Sienne en bus. C'est court, mais c'est beau.
C'est très beau. Moi, j'adore les bus.
Moi aussi.
Ça permet de voyager autrement, comme les trains d'ailleurs. Vous retrouvez toutes les références des contenus évoqués depuis ce matin 9h sur le site Europe 1. S'il vous manque une information, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On attend aussi vos cartes postales. Alors, papier ou numérique, on a une préférence pour le papier, je dois dire. L'adresse du club, c'est le 2 rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement de Paris. Hier, je vous disais avoir reçu une carte postale sans signature. Eh bien, je vais repartir tout de suite chez l'ophtalmo parce que la carte postale du Pays Basque envoyée à l'adresse que je viens de vous indiquer était bien signée, elle est signée par Odile, mais Odile m'a fait une petite blague puisqu'elle m'a mis sa signature en haut de la carte à droite, enfin pas du tout à l'endroit où j'attendais la signature de la part d'Odile. Très sincèrement, mille excuses, mais merci beaucoup pour votre carte postale. Elena Noguera, est-ce que vous avez faim? Oui, voilà. Dommage, parce qu'Olivier Pouls va encore s'apprêter à parler de salade. Mais avant, dernière pause musicale avec Inny Kamoz et son titre « Here comes the hot stepper ».
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching. Mr. Officer, still living like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, that's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me, that's it. Every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number.
Sur Europe 1 avant Olivier Pouls, si c'est pas la classe.
Leclerc.
Chérie, j'ai pris des nectarines chez Leclerc.
Ah super, des blanches ou des jaunes?
Les deux, c'est la saison des nectarines françaises. Elles sont parfaites, sucrées, juteuses.
Ah parce que tu y as goûté?
Ah oui, comment résister à cette peau douce et cette chair?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 17 au 20 juillet, le kilo de nectarines blanches ou jaunes, origine France, calibre A catégorie 1, est à 2,15€. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc.
Mais il reste même pas de quoi faire une salade de fruits.
Je repars chez Leclerc.
En juillet, il y avait l'Opel Karl 5 portes avec climatisation à partir de 4 990€. Pourquoi j'y aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'ai pas cru. Le monsieur sur la lune, j'ai pas cru. Alors la Karl à 4 990€, le complot, quoi. Et puis l'offre est passée. Et depuis, bah, j'ai honte, quoi.
C'est pourtant vrai. Jusqu'au 31 juillet, l'Opel Karl est à partir de 4 990€. Offre réservée aux particuliers non imposables sous conditions de reprise. Super prime à la conversion gouvernementale de 4 000€ et éco-prime Opel déduite. Conditions sur opel.fr.
Le club de l'été. Deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Dernière séquence de ce club de l'été consacrée à Elena Noguera. Elena, on vient de recevoir un message de Élise qui nous demande sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, quel est le plat portugais préféré?
Alors, plat préféré portugais, c'est en portugais, on dit ameijoada bouillon pato, et ce sont des coques qui sont préparées dans une sauce au vin blanc avec beaucoup de coriandre.
Ah, ça me donne
ça oui, non, c'est terrible.
Votre plat belge préféré?
Ça reste bizarrement les sauces qui vont avec les frites.
Ah oui. Andalouse.
Voilà, andalouse, américaine, cocktail, curry, n'importe, les sauces, les sauces, les sauces.
Et le plat français?
Le plat français préféré, je ne sais pas.
Vous avez le droit à un dessert ou une entrée, me dit Élise aussi sur Twitter.
Un plat préféré français, ben, j'en sais rien. Je passe. C'est vous vrai, passez. C'est horrible. Ouais, désolé.
On va donner la parole à Olivier Pouls, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous revenir en tête. On n'a pas eu le temps de faire votre vrai faux tout à l'heure, Olivier. L'affirmation du jour, c'était l'huile d'olive est plus grasse que le beurre, vrai ou faux ? Faites attention, parce que la guerre est ouverte. Bah
parce que là, il y a match entre le beurre, entre c'est le plutôt le nord, nord évidemment, et notamment en Belgique, on utilise beaucoup de beurre. Et puis, votre région, évidemment. Alors, la réponse, qu'est-ce qui est
l'huile.
L'huile,
après,
le plus gras ou le moins ?
Le plus gras,
est-ce que l'huile d'olive est plus grasse que le beurre ?
Alors, à mon avis, il y a moins dans le beurre, 82%, quelque chose comme ça, non ?
De fait, l'huile d'olive est plus grasse parce que ce ne sont que des lipides. L'huile, c'est 100% de lipides, donc c'est vraiment le gras à l'état pur. Mais attention, ce n'est pas le même gras. Ce ne sont pas les mêmes qualités de gras. Et le gras de l'huile d'olive, qui sont des acides gras insaturés, est meilleur pour la santé que le gras qui est contenu dans le beurre, qui est un acide gras saturé. Et donc, il vaut mieux manger de l'huile d'olive et assaisonner à l'huile d'olive que du beurre. Et puis aussi une grosse différence entre le beurre et l'huile d'olive, c'est la température à laquelle le produit se dégrade. L'huile d'olive peut monter très haute en température et donc pour la cuisson c'est bien meilleur. Le problème du beurre c'est qu'il brûle assez rapidement parce qu'il contient encore de la caséine et du petit lait. Et donc si on veut que son beurre ne brûle pas, il faut faire ce qu'on appelle un beurre clarifié. C'est-à-dire qu'on fait fondre le beurre. Vous allez voir, il va se diviser en trois parties. Vous allez avoir une petite partie au-dessus qu'on enlève, des impuretés en dessous qu'on enlève, on ne garde que le milieu.
Ah bon ? Ouais.
Et ce milieu, c'est ce qu'on appelle le beurre clarifié. Et lui permet de monter beaucoup plus haut en température et donc de pouvoir cuire de manière plus saine.
D'accord, mais sinon vive l'huile d'olive,
mais
on est bien d'accord.
Sinon vive l'huile d'olive, bien sûr, mais en même temps, une bonne tartine de beurre, c'est quand même vraiment très bon, avec un morceau de chocolat par-dessus.
Elena, en ce mardi, c'est la deuxième journée de recettes autour d'une thématique pour Olivier. C'est la seule chanson que j'ai trouvée, c'était salade niçoise, Olivier.
Mais je ne ferai pas de salade niçoise aujourd'hui, désolé.
Non, on fait quoi, une salade belge ?
Salade belge, évidemment. Et c'est une salade de Liège que je vous propose de manger ensemble aujourd'hui. Alors c'est très facile. Il vous faut des pommes de terre, il vous faut des haricots verts qu'on trouve en ce moment, il vous faut quelques lardons, des oignons, du vinaigre et du persil. Alors vous allez éplucher vos pommes de terre, vous les cuisez de manière tout à fait classique hein, dans l'eau ou à la vapeur. Vous cuisez vos haricots verts, attention, al dente, hein, pas trop. On les cuit une petite dizaine de minutes, suivant la taille, et on les refroidit immédiatement pour garder la couleur et pour garder le croquant. Et puis, vous allez faire revenir, dans un petit peu de matière grasse, mais pas trop, parce que les lardons en contiennent quand même, vos lardons, les oignons que vous avez hachés, et vous faites bien revenir ça tranquillement. Et ensuite, quand c'est bien revenu, vous déglacez au vinaigre. Mais là, on y va. On vinaigre assez copieusement.
Lequel vinaigre ?
Alors, on prend un vinaigre de vin classique. Ça marche très bien. Un vinaigre de cidre, ce qu'on veut. Un vinaigre de vin, allez, on va dire que ça marche très très bien. Vous allez bien vinaigrer ça. Et puis, vous allez venir verser cette préparation sur les pommes de terre qui auront tiédi et sur les haricots verts. Et puis, vous allez enrober avec cette préparation, donc les lardons, les oignons, le vinaigre.
C'est pas mal, hein.
Et on vient terminer en rajoutant simplement un tout petit peu de persil. On mélange bien et on passe à table. C'est simplissime, c'est délicieux. Ça s'appelle la salade de Liège.
Il est 10h53 et j'ai déjà très, très faim. Merci beaucoup.
Ça fait envie.
On aurait pu parler d'autre chose. On évoquait évidemment les fameuses croquettes de crevettes aussi. C'est l'incontournable quand on va en Belgique.
C'est vous qui m'avez fait découvrir ça et c'est très, très bon.
C'est vraiment très, très bon.
Exactement. Si vous testez les recettes d'Olivier, vous nous faites une petite photo, vous nous l'envoyez sur Twitter, que ce soit raté ou pas, c'est pas grave, vous nous dites surtout si c'est bon.
Ça, c'est, en l'occurrence, la salade de Liège, franchement, c'est
a priori, on peut la réussir.
Inratable.
Même moi, je pourrais y arriver,
Vous voulez une salade niçoise demain
Ok, mais alors, attention, faites attention à ce que vous allez mettre comme ingrédient dedans.
On a déjà
répondu, pas de riz, évidemment.
Rien de cuit.
Et pas de pommes de terre. Il fallait pas lui dire l'espresso.
Mais il le sait.
Un indice. Si vous avez des questions pour Olivier...
Elena voulait intervenir.
Oui, pardon, j'ai trouvé, parce que je ne voulais pas offenser les Français qui m'accueillent, parce que je suis quand même une immigrée sur le territoire français. Et je crois que c'est les fromages.
Ah oui, ça Olivier il adore aussi.
J'en suis dingue.
C'est le pays du fromage, même si en Belgique on en trouve quelques-uns aussi, mais c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que France en la matière quand même...
Et le trou du cru, ça va être mon préféré.
Ah bon, ben voilà. C'est un fromage doux, ça.
Alors, ça ressemble à l'époisse, mais en petit. Et c'est surtout très drôle à dire.
Oui voilà, c'est ça, j'avais bien compris. Vous avez remarqué que je ne le répète pas.
Oui.
Si vous avez des questions pour Olivier et pour Lise, vous n'hésitez pas non plus, c'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Ce club de l'été, on vous le rappelle, c'est le vôtre. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Merci infiniment, Elena Noguera, de nous avoir accompagnés ce matin. Je suis nue parce que j'avais envie que vous restiez. Votre voix et votre musique, c'est sur votre album Nu. Votre humour, c'est ce soir à 23h25 sur TF1 avec Christophe de Chavannes et Jean-Marc Généreux pour Star Tout Terrain au Chiapas. Et puis vous m'aviez annoncé entre deux publicités que vous allez mettre cet album Nu en scène, au théâtre.
Au théâtre, oui. À partir d'avril 2020, on commence à Caen, au CDN, et après on sera en septembre 2020 au Théâtre de la Ville, à Paris.
Un spectacle musical, donc spectacle à partir musical. De votre album voilà. Nu. L'Espressac Olivier Pouls, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci infiniment, Elena Nogara, d'avoir passé ces deux heures avec nous.
Merci de m'avoir accueilli.
On reviendra demain en France grâce au comédien Jonathan Lambert qui va nous emmener en Normandie. Ouh. Moi, je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.
Merci, à demain.
Au revoir.